Bonsoir, c'est le moment des amis d'Orwell. Cette semaine, une petite page d'histoire des luttes sociales avec la grève des sardinières de 1924, une conférence documentaire et gesticulée qui s'est déroulée le 20 novembre à la bibliothèque associative de Malakoff.
C'était la patrouille de police qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens.
Seul comptait
only the thought police
la police de la pensée.
Le 20 novembre 1924 débutait une grève d'ouvrières des usines de conditionnement de sardines de Douarnenez en Bretagne. Donc 100 ans après, jour pour jour, c'était le mercredi 20 novembre, nous étions à la BAM, la bibliothèque associative de Malakoff, pour assister à une performance documentaire autour de cette histoire que nous ont raconté les deux auteurs autrices Ingrid Bizaguet et Morgane Massard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la BAM. C'est Simon et Sophie qui la présentent brièvement.
Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À la BAM, la Bibliothèque Associative de Malakoff. On est extrêmement heureux de voir autant de monde ce soir. Donc, nous sommes une bibliothèque associative qui existe depuis plus de 10 ans, depuis le 1er mai 2014, fondée entre autres par Christian ici présent. On est complètement autofinancé, on ne touche pas de subventions et on vit uniquement grâce aux dons des adhérents, des gens qui viennent emprunter des livres pour lire et des sympathisants, des amis.
Les livres, ce que tu n'as pas encore dit, c'est que notre fonds, c'est quand même un fonds assez précis, assez spécifique. Donc c'est pas n'importe quel livre, donc c'est critique sociale, anarchisme, féminisme, urbanisme, colonisation et ce genre de sujets. Donc si vous avez des sujets de sociologie, d'histoire qui sont un peu liés à ces thématiques-là, okay. Mais sinon les romans pas trop, parce qu'on a plus trop de place, en fait on a plus de 7000 ouvrages et la carte de lecture c'est 10 euros à vie.
Voilà, donc 10 euros une fois et ensuite vous pouvez emprunter autant de livres que vous voulez. Donc la bibliothèque, elle est ouverte tous les samedis après-midi pour venir emprunter des livres de 16h à 19h tous les samedis. Et ensuite, on a un programme d'activités régulières et ponctuelles, donc comme la soirée de ce soir. Tous les mois, on a une séance de compte qui s'appelle Compte et Rencontre, qui inclut une scène ouverte, un buffet et un spectacle par un conteur ou une conteuse professionnelle. Donc c'est tous les mois, le deuxième mercredi du mois habituellement. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle une jam poésique, c'est-à-dire une scène ouverte qui mêle de la poésie ou poésie en prose avec de la musique improvisée. Donc si vous êtes autant poète que musicien, vous êtes les bienvenus pour venir jouer ou simplement écouter. Là, c'est le troisième jeudi du mois, habituellement, la jam poésique. On a un atelier d'artivisme pour venir dessiner et s'exprimer graphiquement contre la publicité, tous les premiers dimanches du mois. Et ensuite, on a des activités, des soirées ponctuelles, où on invite une autrice, un auteur, pour discuter d'un livre qui vient de sortir. On fait de temps en temps des projections de films, et on invite aussi de temps en temps des collectifs pour venir discuter de leurs actions. Par exemple, on a accueilli le collectif Remise à Flot, qui s'occupe de faire vivre de la batellerie artisanale, c'est-à-dire qu'ils sont en train de racheter une péniche pour pouvoir transporter des produits locaux et artisanaux depuis le sud de la France jusqu'à Paris et ailleurs dans le nord de la France, et peut-être à terme inversement, donc faire l'aller-retour. Donc c'est du transport de proximité, fluvial, sur une péniche et engagé avec des producteurs locaux et artisanaux dans le sud de la France.
Et on peut aussi peut-être dire qu'il y a, Christian, tu me dis, 19. Est-ce que 19, c'est le bon chiffre? Oui. Il y a 19 lieux comme celui-ci que Christian a créé, a monté ou a aidé à se monter partout en France. Et donc là, au départ, il en était à 13, puis il a dit non, je veux ma toile d'araignée qui couvre toute la France. Donc maintenant, on en est à 19 lieux, des Alpes à Laon, voilà, en passant par Mâcon, Saint-Nazaire. Voilà. Mmh. Donc c'est aussi des initiatives qui essaiment. Et c'est grâce aussi à ce qui se passe aujourd'hui, à des gens qui viennent. C'est un réseau de gens qui essaient de créer des petits pas de côté. On a un site internet qui est super mis à jour. Donc c'est b-a-m.org. Il y a tout sur le site.
Et il nous reste des programmes papier sur la table. Ils sont en orange là. Voilà. Vous pouvez en prendre. Je peux en réimprimer s'il n'y en a pas assez.
Mais le site internet, il est vraiment toujours à jour. Et si vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter et on vous envoie une fois par mois le programme. Voilà.
Et donc ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Ingrid Bizaguet et Morgane Massard qui nous ont proposé cette soirée de célébration de la grève des pets de sardines qui a commencé il y a exactement 100 ans. Mm-hmm. Ce soir.
Voilà. Alors, cette grève des sardinières, elle fut victorieuse, hein, c'est plutôt rare à l'époque, même si leurs revendications étaient bien modestes, hein, c'était quelques centimes de francs d'augmentation de l'heure. Leur condition féminine, vous l'entendrez, n'a pas vraiment été prise en compte. En tout cas, ces 12 semaines de grève ont laissé des traces, des bonnes et des moins bonnes. Et à l'époque, en tout cas, ce fut une grosse secousse politique, pas simplement en Bretagne. Dans cette conf gesticulée, il y aura aussi des chansons, dont un poème de Jacques Prévert, interprété par lui-même. Il y aura aussi des lectures d'ouvrages de référence sur cette histoire. Et nous ferons évidemment une bibliographie complète sur notre site pour ne rien manquer. Il existe aussi un film documentaire sur la question. Il s'appelle L'usine rouge. Il date de 1989 et c'est sans doute le seul qui ait pu recueillir les dernières paroles de ces ouvrières bretonnes. Un DVD va bientôt être édité, on en donnera les références à la fin. Voilà, je n'en dis pas plus, Morgane et Ingrid vont tout vous raconter. C'était donc à la BAM de Malakoff, 100 ans après, jour pour jour, après le début de cette grève des sardinières de Douarnenez.
Refaire une petite introduction. Donc, merci d'être venu. Moi, je suis très contente de pouvoir célébrer cet anniversaire. Et peut-être que... Enfin, on m'a demandé, mais pourquoi tu veux faire un anniversaire des sardinières, Ingrid? Et donc, c'est parce que mon arrière-grand-mère, Aimée Kerenfleck, est née en 1899 dans une petite ville de Bretagne, à l'île Grande. Son papa était tailleur de pierre. Et sa maman était ménagère à la maison, comme toutes les femmes à cette époque-là. Et mon arrière-grand-mère a été, elle a commencé à travailler à 12 ans aussi, mais elle est montée à Paris, comme on disait. Elle a été envoyée à Paris parce qu'elle était la 9e enfant de 10 enfants et qu'il fallait aller travailler à cette époque. À 12 ans, il fallait aller travailler. Cette arrière-grand-mère, je l'ai connue. Et donc, c'était une arrière-grand-mère qui a travaillé. Donc, à partir de 12 ans, elle est montée à Paris avec une paire de sabots qui étaient à peu près semblables à celle-là. Même si ce ne sont pas de vrais sabots, parce que normalement, ils sont en dessous, ils sont ferrés. Donc, ce sont des sabots de décoration. Et cette arrière-grand-mère, je l'ai connue. J'ai connu sa façon de se tenir, de se placer, sa façon d'être toujours en jupe parce qu'il n'y avait pas de pantalon à l'époque et ça n'était pas envisageable. Et elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle se marie et qu'elle ait des enfants. Et ma grand-mère a travaillé parce que c'était dans cette dynamique de travail. Et pour ma grand-mère, avec qui je parle encore, travailler était un élément de son émancipation possible. C'est-à-dire que l'indépendance financière était une étape vers une indépendance possible. Donc c'est amusant, aujourd'hui on pense le travail comme une aliénation, et finalement à cette époque-là, pour ma grand-mère qui est toujours vivante, le travail a été une source d'émancipation. Elle pense aussi que passer son permis de conduire, c'était très important. Et donc c'est ça aussi qui lui a permis d'être dans une forme d'indépendance, de pouvoir choisir d'être libre de ses déplacements et d'être libre de ses choix, de ses achats. Voilà. Moi, si je peux me présenter un instant, moi je suis danseuse et professeure de danse. Je donne des formations autour du corps et j'ai fait de la sociologie et de l'anthropologie à l'université. Et pour moi, le corps est avant tout un espace social, en fait. On n'est pas on est ce qu'on nous permet d'être à l'intérieur d'un cercle qui nous façonne, et même les connaissances, c'est-à-dire ce que je sais de moi, m'est souvent apporté, ou c'est-à-dire que je ne suis pas forcément toujours libre de pouvoir tout aller chercher. Enfin, aujourd'hui, peut-être qu'on l'est, mais à l'époque, en tout cas, ces femmes n'étaient pas forcément libres d'aller chercher des informations sur leur propre corps. Il y a eu plusieurs livres comme Notre corps nous-mêmes, ou des livres comme ça qui ont permis aux femmes, qui ont permis aux femmes de se fédérer, de fédérer leurs connaissances et d'avancer vers une meilleure connaissance d'elle-même et une meilleure connaissance de soi. C'est une capacité à aller chercher sa puissance d'agir, voilà. Et donc, en parlant de ça, je voulais parler d'un livre qui s'appelle Fragile ou contagieuse. Et donc, ce livre-là fait suite à un livre qui m'a éclairée, Sorcière, sage-femme ou infirmière, je ne sais pas si vous connaissez. C'est deux livres qui ont été écrits par des Américaines. Et donc, dans ce livre-là, dans Fragile ou contagieuse, elle montre comment la médecine a construit des types de discours différents en fonction des classes sociales. L'un enfermait les corps des femmes de la bourgeoisie dans la fragilité et l'hystérie, l'autre décrivant au contraire les corps des femmes des classes populaires comme résistants mais vecteurs de maladies contagieuses. Et donc il y a deux phrases que je trouve assez intéressantes. En même temps, je m'éloigne de cette grève, mais pas tout à fait. Les femmes ne constituent pas une classe, elles ne sont pas toutes opprimées de la même manière, elles n'ont pas la même expérience du sexisme. De 1865 à 1920, les différences de classe, c'est parmi les femmes états-uniennes, étaient particulièrement marquées. Le mode de vie, le comportement et les aspirations des femmes de la classe supérieure s'apparentaient peu à celles de la classe ouvrière. On assiste alors à une industrialisation, une urbanisation, une polarisation des classes fulgurantes, et c'est aussi ce qu'on va voir ce soir, là, tout de suite avec Morgane. Le travail est-il une source d'émancipation ou pas? Peut-être pas lorsqu'on est payé 20 centimes de l'heure, comme c'était le cas en 1924.
Ah, je vais commencer par me présenter. On ne l'avait pas prévu, mais je me dis que c'est le moment aussi. Donc, je m'appelle Morgane Massard, je suis autrice et je travaille beaucoup sur du récit de vie, du recueil de témoignages. La première fois que j'ai entendu parler de l'histoire des sardinières de Douarnenez, c'était à travers un poème de Jacques Prévert que je vais vous lire à présent.
Chanson des sardinières.
Tournez, tournez, petite fille, tournez autour des fabriques, bientôt vous serez dedans. Tournez, tournez, fille de pêcheurs, fille des paysans. Les fées qui sont venues autour de vos berceaux, les fées étaient payées par les gens du château. Elles vous ont dit l'avenir, et il n'était pas beau. Vous vivrez malheureuse, et vous aurez beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants
qui vivront malheureux, et qui auront beaucoup d'enfants. Qui vivront malheureux, et qui auront beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui vivront malheureux, et qui auront beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Tournez, tournez, petite fille, tournez autour des fabriques. Bientôt vous serez dedans. Tournez, tournez, fille des pêcheurs, fille des paysans.
On va parler ce soir d'une grève qui s'est déclenchée à Douarnenez en 1924, qui a été soutenue par des femmes qui souhaitaient obtenir tout simplement un salaire décent et qui l'ont obtenu. C'est la première des grandes grèves de femmes en France. C'était une grève victorieuse. Et si c'est arrivé là, à ce moment-là, c'est probablement pas par hasard. Donc je vais un petit peu chercher à placer le décor. La Bretagne, en 1911, a un taux de mortalité infantile de 180 décès pour 1000 naissances. Ça veut dire que 20% des enfants qui naissent vont mourir avant d'arriver à l'âge adulte. Il faut savoir que la moyenne en France au même moment est de 21 décès pour 1000 naissances, donc de 0,2%. En fait, on a des femmes qui ont fréquemment 4 enfants ou plus de 4 enfants en Bretagne. Une population clairement trop importante pour que l'exploitation des terres agricoles permette de nourrir tout le monde. Et la population est rassemblée sur les bandes côtières. Et en particulier, on a une population qui est massée en Cornouailles. Donc on a, à Douarnenez comme ailleurs, on a des populations majoritairement rurales, hein, seulement 26% des populations vivent en ville, qui mangent peu ou mal. On consomme énormément d'alcool, on meurt très jeune. On vit dans des conditions sanitaires douteuses. En fait, on a l'impression que la Bretagne est restée au Moyen-Âge. Alors qu'en France, au même moment, il y a des zones urbaines qui se sont enrichies, ça a commencé à s'industrialiser, il y a des campagnes qui se sont modernisées. En Bretagne, c'est toujours vraiment la misère. Et la misère est une situation assez catastrophique. Et puis dans les campagnes, il y a un contraste entre les villes et les campagnes. Hein. Dans les villes, il y a d'autres types de métiers que les métiers du secteur agricole. Il y a d'autres influences plus progressistes. Mais dans les campagnes, il y a une grande influence du clergé qui incite donc les femmes à avoir le plus possible d'enfants. Et puis qui incite globalement les gens à supporter la misère parce que c'est la volonté de Dieu. Donc on ne va pas se révolter. Hein. Et puis voilà, bon, encore quelques petits indices factuels. En 1914, 80% des hommes qui ont été appelés à combattre pour la France et qui venaient de Bretagne ne savaient pas lire. 27% de ces hommes en 1914... qui étaient les hommes vaillants hein, de Bretagne, qui étaient engagés pour se battre. Hein. Ce n'était pas ceux qui étaient impotents. Ils avaient une taille inférieure à 1,57 m. En 1911, l'espérance de vie dans les quartiers populaires de Saint-Brieuc était de 35 ans. Là, une différence entre les quartiers populaires, les quartiers bourgeois, l'espérance de vie était d'une dizaine d'années de plus. Et encore, c'est Saint-Brieuc, c'est une ville. On peut supposer qu'il y avait quelques médecins sous la main, alors que dans les campagnes, voilà. Donc, en fait, la campagne, c'est une terre de misère et c'est une terre que l'on quitte massivement à partir de la fin du 19e siècle. Il y a un exode rural incroyable et ça devient exponentiel dans le début du 20e siècle. On a entre 1911 et 1921 200 000 départs. De 1920 à 1930, à peu près la même quantité de départs. Si on essaye de se représenter, il faut voir qu'à l'époque, à Brest, qui était la deuxième grande ville de Bretagne, Nantes étant la première, il y avait à peu près 100 000 personnes. Ce qui revient à dire que tous les 5 ans, pendant 20 ans, l'équivalent de la population de cette ville, de Brest, quittait la Bretagne. Les femmes se faisaient employer très majoritairement comme domestiques, la figure de Bécassine, hein, qui est très connue, et les hommes faisaient tous les métiers dont personne ne voulait. Que ce soit agricole, terrassier ou je ne sais quoi, tant que c'était ailleurs et qu'il y avait besoin d'emploi et de bras. Et donc, elles et ils font partie des travailleurs les plus en bas de l'échelle sociale. En quittant leur terre, ils sont aussi souvent tentés de quitter leur langue. À partir de 1902, il y a un énorme effort de l'État centralisateur pour éliminer les patois et en particulier le breton. Donc, une langue qui est complètement méprisée. En 1905, le ministre de l'Instruction publique, l'équivalent de l'Éducation nationale, s'exprime sur la langue bretonne en disant que c'est une barbare relique d'un autre âge. À la même époque, il y a la moitié de la population de la Basse-Bretagne, c'est-à-dire en gros un quart de la population de la Bretagne, qui ne parle que le breton. D'ailleurs, les conscrits qui seront appelés à combattre à la guerre de 14, certains ne comprenaient absolument pas le français. Et les Bretons ont fait une excellente chair à canon à la guerre de 14, ça a été une hécatombe. La culture bretonnante étant disqualifiée, les Bretons étant globalement considérés comme des arriérés, effectivement, les Bretons qui quittent la Bretagne, ou même ceux qui y restent, sont tentés de laisser derrière eux une culture qui ne leur... apporte apparemment que de la misère et de se tourner vers le français, l'avenir et la modernité. Mais la langue, c'est pas qu'une langue, c'est des coutumes, c'est un univers onirique, c'est une façon d'habiter le monde que je vous propose d'écouter.
Quelqu'un parle le breton ici? Ne peut nous traduire alors. Les chansons
c'est important, parce que quand on travaille, on chante, que ce soit sur la terre, en mer ou dans les usines. Et à Douarnenez, on revient à Douarnenez, enfin, les activités agricoles ne sont pas les seules sources de revenus. Hein. On vit beaucoup de la pêche, en particulier de la pêche à la sardine. Historiquement, depuis le début de la création des usines de mise en boîte de sardines, vers le milieu du 19e, ce sont les femmes qui mettent les sardines en boîte. Parce que, donc on les appelle les friteuses ou les pennes sardines. Et ce sont elles qui travaillent dans les usines, tout simplement parce que les hommes sont dans les bateaux et pêchent les sardines, et qu'il faut bien employer du monde. Donc en Bretagne, on a, vers 1900, on a par exemple 15 000 ouvrières et ouvriers dans l'ensemble des sardineries de Bretagne. Il y en a à Douarnenez, il y en a aussi à Quiberon, à Nantes ou à Lorient, mais Ingrid, je crois que tu vas nous parler plus particulièrement de Douarnenez.
Tout à fait. Moi, je vous conseille ce livre, Une belle grève de femmes, de Anne Crignon, qui relate l'ensemble de ce qui s'est passé. Et donc, elle dit, en 1984, la fille d'usine, comme le désigne alors le parler populaire, a une idée fixe, nourrir sa famille, laquelle se compose généralement d'un couple avec trois enfants, ce qui est une moyenne basse à l'échelle française. Les mères célibataires sont nombreuses. D'abord, il y a les femmes restées seules après la guerre qui a fauché tous les maris. Et puis, dans cette ville, qui célèbre souvent les noces d'un pêcheur et d'une belle friteuse, on les appelle ainsi car leurs usines sont des fritures où l'on fait frire le poisson, la mère qui prend l'homme parfois ne le rend pas. Au jour même de leur fiançailles, cette menace sonne le glas de toute insouciance. Alors, il faut vraiment s'imaginer comment est-ce que cette grève a émergé. Les ouvrières sont payées 80 centimes de l'heure. Elles ont beau trimer, elles sont comme les pauvres gens de Victor Hugo. Le premier livre du Code du travail a été promulgué en 1910. Il y a aussi la loi de 1919 qui fixe à 8 heures la journée d'usine. Mais à Douarnenez, ce n'est pas compliqué. On fait comme si ça n'existait pas. Une sardinière qui file dans la conserverie n'a aucune idée de l'heure ou même parfois du jour où elle rentrera chez elle. Elle est à l'usine 10, 15 ou 18 heures d'affilée. Les très influents industriels bretons ont obtenu de Paris des dérogations en ce sens. Et Paris a posé une condition, que le travail ne dépasse pas 72 heures par semaine. Ce sur quoi le patronat local s'assoit. Je vous laisse imaginer ces femmes qui attendent que les bateaux arrivent, déverser des milliers de tonnes de sardines et qui doivent soit les faire frire pour la moitié, soit les mettre dans la saumure pour l'autre moitié et les emboîter. Donc être dans un travail répétitif de mise en boîte totalement manuel. Donc on disait que les femmes chantaient pour garder la cadence, avoir la cadence et être dans une même cadence collective. En 1905, il y a déjà eu une première grève au cours de laquelle elles ont demandé à ne plus être payées au mille, c'est-à-dire ne plus être payées aux 1000 sardines, mais être payées à l'heure. Parce que vous imaginez bien qu'en réalité, on ne peut pas compter 1000 sardines. Donc en vrai, on les payait comme on souhaitait les payer. Donc déjà, il y a la reconnaissance du nombre d'heures de travail. Et donc, à partir de là, il y a également, entre 1905 et 1924, là, entre ces deux grèves, il y a aussi la reconnaissance du travail de nuit à partir de minuit. Donc, c'est-à-dire que le travail à 23h30, c'était encore compté comme un travail de jour. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi que quand on comprend l'histoire de ces sardinières, vous allez voir un documentaire après qui a été tourné. Une femme, Marie-Elia, est allée voir ces sardinières en 1989, celle qui était encore vivante, et elle raconte en fait qu'au-delà de ces journées de travail, elles avaient aussi le travail domestique. Donc en réalité, moi je me demande bien à quel moment il restait s'occuper de soi, je ne sais pas. Ses besoins physiologiques en nourriture, en sommeil, en hydratation, enfin déjà je me demande comment c'était. Alors imaginez un peu la lecture, les loisirs, ça me paraît complètement incroyable. Donc ces femmes brodaient en plus, elles s'occupaient de rapiécer le linge aussi. Il y en a une qui raconte que c'était un travail vraiment important. Du coup, le 20 novembre 1924, trois femmes de l'usine Carnot sont allées voir le patron en disant « Nous voulons être augmentées de 5 centimes ».
Et la question, la vraie question, c'est est-ce que travailler dans ces conditions, c'est être libre ?
Chaque matin, au lever de l'aurore, quoi il est passé, ces pauvres ouvriers. La face blême et fatiguée encore. Où s'en vont-ils se rendre aux ateliers? Petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige et le grand froid, jusqu'aux vieillards et les mères de famille, pour le travail, ils ont quitté leur toit. Saluez, riches, ces pauvres en rayons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Ces ouvriers, en quittant leur demeure, sont-ils certains de revenir le soir? Car ils n'ont pas de jour ni même d'heure que l'on envoie victime du devoir. Car le travail est un champ de bataille où l'ouvrier est toujours le vaincu. S'il est blessé, qu'importe qu'il s'en aille à l'hôpital, puisqu'il n'a pas d'écu. Saluez, riches, ces pauvres en rayons. Combien voit-on d'ouvriers, d'ouvrières blessés soudain par un terrible engin? Que reste-t-il pour eux? C'est la misère en récompense d'aller tendre la main. Et sans pitié, l'on repousse ces braves après avoir rempli les coffres d'or. Les travailleurs ne sont que des esclaves sous les courroux des maîtres du trésor. Saluez, riches, ces pauvres en rayons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Que lui faut-il à l'ouvrier qui travaille? Être payé le prix de sa sueur, vivre un peu mieux que coucher sur la paille, un bon repos après son dur labeur, avoir du pain au repas sur la table, pouvoir donner ce qu'il faut aux enfants. Pour son repos, un peu de confortable, afin qu'il puisse travailler plus longtemps. Saluez, riches, ces pauvres en rayons. Saluez, qui gagne vos millions. Saluez, riches, ces pauvres en rayons. Saluez,
ça c'est la coiffe des peines sardines, d'où vient leur nom, qui veut dire tête de sardine, puisque c'était une coiffe spécifique qui soi-disant représentait une tête de sardine. Donc le 20 novembre 1924, trois femmes vont dans le bureau du patron, dans l'usine Carnot. Il y avait plusieurs usines à Douarnenez. Elles demandent une augmentation de 5 centimes. Alors, elles étaient payées 80 centimes de l'heure et par exemple, un litre de lait, c'était 2,50 francs. Donc vous imaginez que même à la fin de la journée, à la fin du mois, il n'y avait pas beaucoup de litres de lait. Donc elles demandent 5 francs d'augmentation, elles aimeraient être payées 5 centimes d'augmentation, elles aimeraient être payées 85 centimes. Et donc bien sûr, ils refusent. Elles redescendent, elles en parlent aux autres ouvrières qui veulent se mettre en grève. Je vais parler d'un autre livre qui est vraiment super, qui s'appelle Flanchec. Les 21, 22 et 23, après de nouvelles démarches toujours infructueuses, les femmes de chez Carnot, de l'usine Carnot, font connaître leurs revendications chez les autres usines de la ville. Elles réclament 1 franc de l'heure maintenant. 1 franc de l'heure pour les ouvrières et 1 franc 50 pour les manœuvres. Bon, du coup, ils sont toujours payés plus qu'elles, mais bon. En plus, c'est elle qui demande. Le 24 novembre, le mouvement se généralise. Le 25, l'ensemble des usines de Douarnenez est en grève. Donc ça veut dire que toutes les ouvrières arrêtent de mettre les sardines dans des boîtes et qu'au bout d'un moment, les bateaux ne peuvent plus apporter leurs sardines. Et donc les marins aussi se mettent en grève puisqu'on ne sait plus quoi faire de ces sardines qui restent dans la mer. Et donc ce qui a fait basculer cette grève, c'est plusieurs éléments, parce qu'il y a eu, plein d'histoires de grèves comme ceci, mais ce qui fait que celle-ci est particulière, c'est que le maire de la ville, Daniel Leflanchec, était du côté des ouvrières, leur a dit « mais voilà, il faut demander 1 franc et pas 5 centimes de plus », il leur a fait livrer des sabots, il leur a fait livrer de la nourriture pour qu'elles siègent. Ça, c'est assez incroyable. Donc, cet homme-là, dont on voit la photo, d'ailleurs, il lui manque un œil, parce qu'il s'est crevé un œil tellement il était antimilitariste et qu'il ne voulait pas pouvoir être... Voilà, c'est complètement incroyable, cette histoire. Anarchiste, socialiste, communiste, il a été maire de Douarnenez de 1924 à 1940. Il a été destitué plusieurs fois, parce qu'il était quand même un acteur vraiment très, 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 très militant. Ce qui a fait que la grève a été victorieuse, c'est que le 1er janvier 1925, les patrons d'usine et le préfet refusaient d'accorder une augmentation aux sardinières. Ils ont demandé à des briseurs de grève de venir, il y a eu des coups de feu et Leflanchec a été blessé. Et à partir de là, le préfet a dit « maintenant, les patrons, vous leur donnez ce qu'elles demandent, ça suffit, elles ne demandent pas tant que ça ». Et donc c'est grâce à Leflanchec, à son intervention, que cette grève a été victorieuse. Il y a d'autres personnages qui sont assez... Lucie Colliard, je trouve ça vraiment génial parce que ces personnes-là, comme Leflanchec, quand on cherche sur internet, il y a un seul livre qui existe sur lui, il n'y a rien d'autre. Donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont plus ou moins tombées dans l'oubli, alors que ce sont des personnages vraiment fondamentaux qui mériteraient d'être bien plus mis en valeur. Et donc Lucie Colliard, elle est syndicaliste, communiste, féministe, et elle a soutenu la grève des sardinières en facilitant leur participation. Alors c'est-à-dire que comme c'est une institutrice, elle a apporté son savoir de militante. Et elle les a aidés à structurer leurs demandes. Elle les a poussés à se syndicaliser, à se fédérer, en fait, et à affiner leurs demandes. Donc, c'est assez. Elle fait partie des personnes qui sont assez fondamentales dans cette grève. Elle a permis de structurer le mouvement. Et c'est une femme qui est plus ou moins tombée dans l'oubli. Il y a une autre personne qui est absolument géniale, et cette femme, elle est là. Elle s'appelle Joséphine Pencalette. Et donc, elle est de Douarnenez. Elle part un moment en dehors de Douarnenez, puis elle y revient parce qu'elle perd son mari. Elle a 2 enfants et donc c'est pour ça qu'elle travaille à l'usine. Elle fait partie de la grève. C'est une des sardinières et elle permet aussi, avec Lucie Colliard, de structurer la grève. Et cette femme-là, c'est assez exceptionnel parce qu'en 1925, peut-être que vous le savez déjà, mais il y a en France 8 femmes qui ont été élues au conseil municipal de leur ville. Joséphine Pencalette, c'est la première, et c'est justement parce qu'elle était veuve qu'elle a pu le faire, parce que son mari ne s'y est pas opposé. Quelle chance! Non.
Je rebondis sur cette histoire parce que ça fait écho très fort à quelque chose qui a eu lieu ici à Malakoff. La même année, en 1925, exactement dans les mêmes circonstances, il y a eu une femme élue au conseil municipal.
Exactement.
Alors, ces femmes, elles se sont mises en grève pour réclamer des droits, le droit de travailler dans des conditions décentes. Joséphine Pencalet, ça nous amène à une autre question, la question du droit d'être éligible et du droit de vote. Cette revendication, elle est en France, elle circule depuis la Révolution française. Il y a eu, faut voir que en 1918, les Anglaises ont obtenu le droit de vote. En 1919, la Chambre des députés en France avait voté pour que les femmes aient l'intégralité des droits civiques, donc puissent voter et être élues. Mais le Sénat a refusé d'en débattre et a clos le sujet en 1922. Par exemple, pour rester en Bretagne, je vais vous donner des citations de journaux qui sont publiés dans les années 1920. En 1919, dans un journal marqué à droite, « Je ne crois pas qu'il soit dans la mission naturelle de la femme de voter. Dans une société bien organisée, dans une société où chacun ferait son devoir, la femme ne devrait pas voter. Mais parce que nous sommes aujourd'hui dans une société bien lamentable, je dirais aujourd'hui, oui, il faut que les femmes votent. » Donc, oui pour que les femmes votent à condition que ce soit pour soutenir l'ordre et la morale, en gros. Et à gauche, certains sont persuadés que si les femmes votent, elles soutiendront des politiques conservatrices. Donc pareil, dans un journal breton, Rennais, la citation suivante, « Que la femme soit éligible, nous le voulons bien. Électrice, jamais. » Et puis, donc il y a un point de bascule en 1925, parce qu'il y a eu progressivement le communisme qui a pris de l'ampleur. Et à ce moment, la mouvance féministe a de l'influence en Russie, et Moscou préconise de donner aux femmes les mêmes droits civiques qu'aux hommes. Donc, il se trouve que le droit français de l'époque est très explicite sur le fait que les femmes n'ont pas le droit de voter, mais il est très flou sur la question de leur éligibilité. Donc il y a une dizaine de communes menées par un maire communiste qui vont présenter des listes avec à l'intérieur des femmes. Et dans 8 de ces communes, des femmes vont être élues, dont Joséphine Pencalet à Douarnenez et Augustine Vario à Malakoff.
Augustine Vario, elle est née à Maury. Et donc, c'est une militante à la SFIO avant-guerre. Elle est membre de la commission exécutive du groupe des femmes socialistes, l'organe féminin de la SFIO, et prend part au mouvement contre la grève. Contre la guerre, n'importe quoi. Pas dire contre la guerre. En 1925, elle est élue avec d'autres militantes communistes conseillère municipale à Malakoff. Malgré l'interdiction aux femmes de voter, elle reste en poste près d'un an, devant être empêchée de siéger par la police. Donc une rue porte son nom, c'est la rue devant l'espace Angela Davis.
Ouais,
Augustine Vario.
Ouais, ouais. Bon, alors, faut pas rêver, les élections de 1925, les femmes qui ont été élues, en fait, il va y avoir des recours et tout ça va être invalidé assez vite. Mais voilà, on peut retenir que c'est dans ces communes communistes, comme la nôtre, comme Douarnenez, que des femmes ont pour la première fois obtenu un mandat. De manière générale, en France, les femmes ont eu le droit de se rendre utiles à la communauté bien avant d'avoir le droit de vote. Elles ont eu très tôt le droit de monter à l'échafaud, comme le rappelait Olympe de Gouges. Elles ont eu le droit de payer des impôts, etc., etc. Elles ont même été ministres sous le Front populaire en 1936, toujours sans avoir le droit de vote. Donc elles étaient bien gentilles. Alors, il y a d'autres droits. L'histoire des Sardinières nous fait évidemment penser à d'autres droits. Le droit de travailler en étant rémunéré autant qu'un homme, qui n'est toujours pas vraiment acquis aujourd'hui. En novembre, le 8 novembre, on a passé la date à partir de laquelle les femmes pouvaient se mettre en grève parce que, ben voilà, de toute façon, elles étaient payées que jusque-là. Le droit de disposer de leur salaire, puisque ce n'est qu'en 1907 que la loi accorde aux femmes mariées de disposer à leur guise de leur salaire. Ça, c'est incroyable. Mais en fait, donc, les femmes qui travaillaient avant devaient donc légalement donner leur salaire à leur mari. Il y a ça en 1907, mais jusqu'en 1938, les femmes ont encore besoin de l'autorisation de leur mari pour travailler. Donc elles peuvent, si leur mari ne veut pas qu'elles travaillent, elles n'auront pas de salaire, même après 1907, et elles ne pourront pas disposer à leur guise de leur salaire. Et ce n'est qu'en 1938 que la loi fait définitivement sortir les femmes de la tutelle de leur mari. Et puis, le droit d'avoir des conditions de travail dignes.
Pour la petite histoire, comme ça, moi, mon arrière-grand-mère a divorcé. de son premier mari, et ma grand-mère a divorcé aussi de son premier mari. Donc effectivement, l'indépendance financière était une véritable question. Enfin, l'indépendance réelle et sociale ne vient que de l'indépendance financière. Moi, je voulais juste parler un petit peu du corps et des difficultés que le corps rencontre. Alors, pourquoi... oui ?
Non, je voulais juste préciser que c'est en 1965 que les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire.
C'est ce que j'avais dit.
Oui, c'est vrai.
C'est beaucoup plus tard, en fait.
Exact.
C'est gentil de donner l'indépendance financière, mais si t'as ouvert,
ça ne sert pas grand-chose.
Oui, mais en 1965, sauf qu'en 80, ça a été mon cas, pour avoir un compte à mon nom lorsque je me suis mariée, j'ai dû me battre.
Ah oui, oui, oui. C'est un compte 80. Commun. 80.
Ah ouais. C'était automatique.
Encore aujourd'hui, hein. Ça fait partie de... Non, mais tout à l'heure, une des jeunes filles de Sciences Po m'a demandé en quoi cette grève-là des sardinières de Douarnenez de 1924 avait un rapport avec ce qui se passait aujourd'hui. Mais c'est parce que chacune des étapes, enfin, chaque étape en a permis une autre, et c'est intéressant. Enfin, je ne sais pas à quel moment... Les banquiers se sont dit, tiens, on peut aussi marquer le nom de madame, ou elle peut aussi avoir un compte bancaire. Sans, c'est-à-dire, et puis c'est un peu la même chose avec le corps. Enfin, c'est-à-dire, mon corps m'appartient à moi à partir de 18 ans, ou est-ce que j'appartenais encore à un mari, l'obligation de se marier ou non. Et le compte en banque, finalement, on est un peu là-dedans aussi. À qui appartient cet argent derrière, qui est notre parrain, sous la tutelle de qui nous sommes. Donc... Et donc, je voulais juste faire une petite aparté sur le corps et dire qu'à cette époque-là, effectivement, il y avait des problèmes de salaire. Il y avait un salaire vraiment ridicule, des conditions de travail très difficiles. Il n'y avait pas du tout de congé maternité. Et donc, ces femmes qui avaient énormément d'enfants continuaient à travailler malgré leur grossesse, malgré l'état de leur grossesse. Et le corps pâtit de ces grossesses, a un besoin de reconstruction, de calme, enfin des besoins physiologiques qui sont absolument particuliers et qui ne sont pas à prendre en compte. Aujourd'hui, on est en train de prendre un petit peu en compte les besoins physiologiques spécifiques du corps de la femme. Alors, comment faire pour que ce soit pris en compte et que ça ne soit pas non plus un défaut de capacité à travailler ? Donc ça, c'est une question qui est d'actualité, je crois. Voilà, on parle pas mal des troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est un livre peut-être que vous connaissez de Joseph Pontus, À la ligne. Et dedans, il dit « Nos corps sont tout au plus des cartographies de troubles musculo-squelettiques ». Et moi qui travaille avec le corps tous les jours, ça me parle énormément de me dire qu'effectivement, chaque lieu du corps, le corps ne parle qu'avec la douleur. Et donc il y a des lieux du corps qui parlent tout le temps parce qu'ils sont douloureux et qu'il y a des lieux du corps qui n'existent pas. Et doucement, il faut réussir à faire exister ces lieux du corps qui ne sont pas des lieux douloureux, mais qui sont des lieux présents tout de même. Voilà.
En parlant du corps, tu m'avais parlé de la fatigue.
Ah oui, alors justement, vous allez entendre, c'est plus que de la fatigue, en fait. Les besoins physiologiques. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans un des livres, une des sardinières disait qu'à l'époque, donc il y a deux livres chez Libertalia, il y en a un qui parle une belle grève de femme, la grève de 1924, et un qui parle de 1924 à aujourd'hui, quelle évolution et comment ça se passe dans les usines aujourd'hui. Et il y en a une qui dit qu'aujourd'hui, elles sont des variables d'ajustement. Alors qu'avant, d'une façon, c'était une certaine critique, ce capitalisme paternaliste, voilà, parce que finalement on prenait soin d'elles à l'époque, on avait besoin d'elles, et elles avaient, même si elles travaillaient énormément, elles étaient à vie dans une usine, et elles avaient quelques, c'est-à-dire qu'on s'occupait d'elles à Noël. Il y avait... Alors qu'aujourd'hui, c'est une véritable variage d'ajustement, et on parle des troubles musculo-squelettiques, que les femmes sont 40% plus touchées par les troubles musculo-squelettiques que les hommes. Est-ce que c'est une histoire hormonale de capacité tissulaire et de résistance tissulaire ? Je ne sais pas. Donc les sardinières aussi, pourquoi ce sont des sardinières et des femmes ? Parce qu'on voulait que ce soit des femmes des petites mains pour mettre les sardines, des petites mains délicates. Et donc plus elles étaient jeunes et plus elles étaient petites, et aujourd'hui il y a des pays du monde où ils ont essayé de s'installer et où les femmes ont des trop gros doigts, donc on préfère faire travailler des femmes, même des enfants. Où les personnes sont peut-être un peu dénutries et ça les aide à avoir des mains fines et délicates pour mieux travailler. Donc, c'est-à-dire qu'on se servait de cette fragilité, de cette délicatesse physique. Donc alors, nous avons cherché des images, on a lu, vous avez bien vu qu'on a cherché un peu tout ce qui se faisait sur le sujet, et nous avons trouvé un documentaire sur internet qui s'appelle L'Usine Rouge, on a la photo, qui s'appelle L'Usine Rouge, et on a tenté de visionner ce documentaire et on ne pouvait pas le trouver. Et figurez-vous en fait que c'est un documentaire qui a été tourné en 1989 par Marie Elia, qui est française, qui est bretonne, n'importe quoi, qui est bretonne. Je regarde à droite et je... qui est bretonne, ce que je veux dire, c'est qu'elle est bretonne et qui connaît bien, du coup, cette histoire des sardinières et qui a voulu conserver les paroles des sardinières. Et donc, ce film-là, il n'est pas... on ne peut pas le trouver, donc on a contacté la...
Paris-Brest Productions, c'est la maison production de Marie Elia.
Pour leur demander si nous pouvions diffuser leur documentaire. Donc, elles nous ont envoyé un lien. On a beaucoup de chance. Bon, on a payé un petit peu. Donc, on fera tourner un petit chapeau après, si vous voulez contribuer. Voilà. Et donc, surtout, vous pouvez aller après. Vous pouvez chercher L'Usine Rouge. Et actuellement, il y a un lien de crowdfunding pour pouvoir financer la création de leur DVD. Elles sont en train de le faire. Elles essayent de le faire. Et donc on vous laisse regarder...
Alors pour voir le film, évidemment, on ne va pas pouvoir le diffuser à l'antenne. Donc ce film s'appelle L'Usine Rouge de Marie Elia, Paris-Brest Productions. Vous pouvez vous joindre au financement participatif en cours actuellement. Il suffit de taper les mots Peine Sardine DVD. Vous tombez sur le site kengo.bzh en sachant qu'il y aura une projection à Nantes de ce film documentaire, L'Usine Rouge. Donc, ce sera aux archives départementales de Loire-Atlantique le 23 janvier à 18h à Nantes. Donc, on se quitte avec un dernier morceau sur les Peines Sardines, interprété par la chorale populaire de Malakoff, qui était présente le 20 novembre à la BAM. C'est une chanson de Claude Michel.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir, nettoyer les sardines et puis les font frire dans des grandes bassines.
Du matin au soir, nettoyer les sardines et puis les font frire dans des grandes bassines. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elle chante en chœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elle chante en chœur, il faut bien tenir. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez le leur sabot, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le leur sabot, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez le bruit d'un sabot, voilà les ouvrières de l'air.
sardinières ont gagné le respect et meilleur salaire.
Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Écoutez à quelle heure ça vaut, écoutez grandez leur colère, écoutez à quelle heure ça vaut, c'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge on est solidaires, et de leur victoire les femmes sont fières.
Dans la ville rouge on est solidaires, et de leur victoire les femmes sont fières. Écoutez à quelle heure ça vaut, écoutez grandez leur colère, écoutez à quelle heure ça vaut. C'est la grève des sardinières.
À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'en est fini de leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'en est fini de leur colère. C'est la victoire des sardinières. Écoutez, oui, leurs sabots, c'en est fini de leur colère. Écoutez, oui, leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Si vous êtes intéressé pour inviter Morgane et Ingrid pour interpréter leur conférence, contactez la compagnie de Ingrid, la compagnie Transverse. Leur site internet, c'est Ingrid Bizaguet, Bizaguet, BIZAGUET.com, et le mail se trouve à la rubrique Contact. Encore merci à la BAM pour son accueil. La semaine prochaine d'ailleurs, le samedi 14 décembre, prochaine soirée débat autour d'Élysée Reclus. À partir de 19h, samedi prochain, donc, 14 décembre, à la BAM. À la BAM qui se trouve impasse Carnot, à Malakoff, donc à Ré-Étienne Dolé. On en profite avant de conclure pour annoncer que le numéro 15 du journal Le Chiffon vient de sortir, disponible en librairie. Le dossier central de ce numéro est consacré aux livres et au marché de l'édition. Entre monopole et surpublication, comment réancrer le livre ? C'est donc le thème du numéro 15 du Chiffon, et comme d'habitude, nous y consacrerons une prochaine émission avec l'équipe de rédaction. Prochain rendez-vous avec les amis d'Orwell, ça sera le 13 décembre, et ainsi de suite, toutes les deux semaines, de 21 à 22h30. Vous êtes rendu compte que cette fois-ci, nous avons dû décaler la diffusion de cette émission à aujourd'hui, puisque petit message d'amitié pour finir pour notre camarade Henrik, que vous pouvez entendre d'habitude dans l'émission qui suit à peu près tous les vendredis. Henrik traverse des moments très difficiles. Ben voilà, on pense très fort à toi, camarade. Reviens vite à l'antenne. Force et courage à toi. Voilà, c'est la fin des Amis d'Orwell. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
Elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.